9h, 11h, Culture Média, Pascal Clark.
Hier, pour sa réouverture, le musée le plus visité au monde a fait le plein, avec trois quarts de visiteurs en moins. Le Louvre pris cet été en plein paradoxe. Bonjour Jean-Luc Martinez.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Je précise tout de suite que vous devrez partir à moins 10 parce que quelqu'un vous attend au Louvre ce matin, c'est...
La nouvelle ministre qui nous fait l'honneur de venir en effet au musée ce matin. Donc c'est un très beau geste aussi pour nous.
Voilà, Roselyne Bachelot est attendue d'ici trois quarts d'heure au musée du Louvre. Je dis ça s'il y a peut-être des petites manifs à prévoir. Non, j'ai rien dit. Le Louvre, vous en êtes le président directeur depuis sept ans, le chiffre 7. Quelle drôle de journée ça a dû être hier. Drôle, comme on dirait, bizarre, non, pour vous, Jean-Luc Martinez?
Oui, à la fois attendu, préparé, désiré et en même temps, donc ça a été un moment particulier pour les personnels d'abord, parce que ce lieu est fait pour recevoir du public. Notre cœur de métier, c'est de favoriser la rencontre entre des œuvres d'art et le public. Donc voilà, même le matin en arrivant, voir que des gens faisaient déjà la queue, étaient déjà là, il y avait beaucoup de journalistes, mais il y avait des gens, voilà, parce que c'était très étrange, le centre de Paris, complètement désert pendant le confinement, pas un bruit,
Qu'a fait le personnel du Louvre pendant 3 mois et demi?
Alors d'abord, il y a une centaine de personnes qui étaient sur place au mois de mars, au mois d'avril, parce que c'est très très grand, 200 000 mètres carrés.
Donc pour entretenir 23,
pour entretenir, pour veiller sur les collections, également. Et puis, on était près de 300-400 au mois de mai en télétravail pour préparer la réouverture. Parce que au moment où un musée comme le Louvre ferme, il y a 800 œuvres à l'étranger. Donc, il faut s'occuper de ces œuvres avec nos collègues à l'étranger. Il y a aussi des personnels qui sont en mission. Des fouilles avaient commencé en Égypte, par exemple. Voilà, il a fallu aussi s'occuper de rapatrier
gens.
Voilà. C'est une ville, le Louvre. C'est 2300 personnes. C'est des relations avec 75 pays. Donc, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain.
Vous êtes à la tête d'une micro-ville, on peut dire les choses comme ça. Voilà, une petite ville. 7400 personnes hier au Louvre, vous êtes d'accord avec ce chiffre?
Oui, tout à fait. On le connaît très précisément parce que la réservation est obligatoire.
Obligatoire,
donc,
obligatoire.
Y compris pour les gens qui peuvent rentrer gratuitement. C'est l'occasion de rappeler en effet que, par exemple, hier, on avait 50% de gens qui sont rentrés gratuitement puisque c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Les gens l'ignorent généralement. Donc, ce qui fait du Louvre un musée jeune. Et on a plus de 50% de moins de 30 ans au musée du Louvre. Et en effet, c'est l'occasion de le rappeler.
Donc, 7400 personnes... masqué, comme il se doit, sur réservation, là où un été sans Covid, vous en accueillez...
30 000, plus de 30 000. Entre 30 et 40 000, généralement, les jours d'été, mais avec 75% de visiteurs d'origine étrangère.
Essentiellement
des Américains, donc ils ne seront pas là cet été.
C'est sûr.
Des Chinois, nous ne savons pas encore vraiment s'ils sont là. Bon, voilà. Et puis après, généralement, la troisième nationalité étrangère, ce sont des Européens. Donc, voilà.
Qui, eux, peuvent venir.
Donc cet été, le musée, c'est l'occasion rêvée pour les Français de venir retrouver ce musée, donc depuis combien de temps?
Ah oui, c'est même une occasion en or.
Unique, voilà. Parce que 7000 personnes, il y a plus de 45 000 mètres carrés d'ouvert au public pendant tout l'été. Ça fait en effet une visite très très confortable.
Est-ce que cette jauge-là, c'est-à-dire ce maximum de personnes en même temps, va être amenée à évoluer durant l'été?
Alors on peut, c'est l'avantage de la réservation en ligne, on peut vraiment l'adapter en fonction de toutes les situations. C'est-à-dire en effet l'augmenter, le baisser.
Mais qu'est-ce que vous envisagez sur le résultat d'hier?
Le résultat d'hier, c'est qu'à 7400 visiteurs, il y a des parties entières du musée dans lesquelles il y a presque que personne. Donc, dans l'aile Richelieu, par exemple, les grandes cours de sculpture, les appartements de Napoléon III, il y avait presque personne hier. Pour la salle de la Joconde, où on a mis en place un dispositif
particulier... On va parler évidemment de la Joconde.
Donc, c'était très, très fluide. Donc, je pense qu'on pourrait un peu augmenter, mais pour l'instant, on voudrait d'abord rassurer les visiteurs. Voilà. Souvent, on dit peut-être que ce n'est pas le moment de revenir dans un endroit fermé. Le Louvre, ce n'est pas fermé. Le Louvre, c'est un espace, ce sont des espaces immenses, des grandes cours, la grande galerie bien nommée. C'est une grande galerie. Voilà. C'est un lieu dans lequel on peut se promener en toute sécurité, en respectant ces règles qui sont la réservation en ligne et donc le port du masque pour les plus de 11 ans. Mais voilà, c'est un endroit sûr. Voilà. Et c'est d'abord ça. On doit rappeler d'abord que c'est un endroit où on peut venir tranquillement.
Alors, on l'a dit, réservation obligatoire. Quel est l'état des réservations pour cet été alors?
Ah ben là, tout est en vert, hein. Donc voilà.
On peut encore visiter en juillet.
Ah oui, tout à fait. Ah vraiment, oui, tout à fait. Donc la jauge, comme vous l'avez dit, est assez basse, hein. On est autour de 7000 visiteurs. Donc c'est par exemple complet pour demain, donc pour mercredi. Aujourd'hui, nous sommes fermés. Mais bon, il y a de la place tous les jours, hein, pratiquement à toutes les heures. La seule chose, c'est que je pense que il y a généralement plus de place l'après-midi que le matin. On voit bien que les gens ont pris l'habitude dans les musées de venir le matin. Or là, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à faire la queue. Donc, on ne fait plus la queue pour venir au musée du Louvre.
Mais c'est vraiment une occasion inouïe. Non, c'est vrai, de visiter le musée du Louvre dans ces conditions. Peut-être que ça ne se reproduira pas, donc il faut vraiment en profiter. Quelque chose a changé ? C'est le silence, paraît-il. Non ?
Oui, c'est très vrai. Oui, c'est très vrai. Donc,
voilà.
Donc, dans les salles, un peu partout. Mais vous savez, le musée, c'est la vie, hein. Donc, voilà, c'est aussi le lieu de l'échange où on peut parler.
Oui, oui. Mais il paraît que c'est bien plus silencieux que d'habitude. Le président directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, est avec nous. On parle de votre méga star dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Et habituellement, elle passe son temps, Mona Lisa, à voir la foule, la mater, la photographier, parfois le dos tourné, ça s'appelle un selfie. Et pendant 3 mois et demi, la Joconde n'a vu personne. Sauf si, nous sommes toujours avec le président directeur du Louvre, sauf si Jean-Luc Martinez, vous êtes allé voir la Joconde pendant le confinement ?
Oui, j'étais pas seul tout de même. Hein,
non, je suis bien.
Oui, on va la voir régulièrement.
Même vous.
Oui, parce que, vous savez, c'est l'avantage de travailler dans un musée. Nous-mêmes, on change, hein, dans la journée, dans l'année, etc. Et donc, notre rapport avec une œuvre d'art, même qu'on croit connaître, il change.
C'est-à-dire que vous êtes encore capable de voir la Joconde comme vous ne l'avez jamais vue.
Oui, ça suppose un effort, hein, honnêtement, de notre part. Mais voilà, quand on fait cet effort-là, voilà, on peut voir des choses qu'on n'avait pas vues. Et puis, Léonard de Vinci a voulu favoriser une rencontre avec une personne. C'était ça son défi presque. Hein. Une femme d'un temps donné, donc dans toute son incarnation. Et voilà, et ça marche, quoi. Cette rencontre-là, elle marche quand vous êtes face au tableau.
Ouais.
Mais il faut être face au tableau.
Alors, il faut être face au tableau et... Ça peut être possible en ce moment.
Oui, mais c'est même possible, de plus en plus souvent. Parce qu'aujourd'hui, on a réaménagé la salle de la Joconde l'année dernière, à l'occasion de l'exposition Léonard. Et on a voulu faire en sorte, en effet, que les gens puissent, s'ils le veulent, donc avec une petite contrainte qui consiste, en effet, à faire la queue, mais à accéder très près du tableau. Parce qu'en effet, le sens de ce tableau, c'est cette rencontre. La Joconde, c'est un petit tableau, donc pas très très grand, de dimension humaine. Et Léonard a voulu, j'insiste sur ce point, que cette rencontre ait lieu.
Vous comprenez, vous, personnellement, qu'elle attire tellement les regards. Bon, la célébrité planétaire est attractive, probablement, mais vous la trouvez vraiment au-dessus, cette toile de Léonard de Vinci, qui est peinte en quelle année 1500 et quelques ?
Et en fait, il la commence vraisemblablement à Florence, hein, donc dans les années 1504-1505. Et puis, toute sa vie, ce tableau est resté inachevé. Donc, jusqu'à sa mort en 1519, il continue. Et c'est la raison pour laquelle il l'avait avec lui quand il est venu en France. Hein, donc, il continue. Oui, parce que c'est, moi j'ai la chance de le voir de très très près, parce que deux fois par an on la sort de sa vitrine. Il y a des analyses qui sont faites parce que c'est un bois, hein, donc, et du coup assez fragile, fissuré, voilà, donc on mesure cette fissure, voilà. Donc de la voir de près, voilà, les mains par exemple, vous avez l'impression que vous pouvez toucher cette chair, quoi. Donc il y a ce trouble, cette illusion qui fait l'art, hein. Donc vous vous approchez et voilà, donc vous savez, moi j'aime beaucoup Fellini, mais cinéastes, bon voilà, c'est ça qui joue sur le vrai et le faux, voilà, ça c'est Léonard.
Ouais, donc
et les gens sont sensibles à ça, à ce jeu, vous voyez, entre le Léonard joue avec le visiteur, avec le spectateur.
Donc en aucun cas, pour vous, la Joconde ne représente une plaie pour le Louvre, c'est plutôt une chance.
Ouais. Ah, c'est une chance extraordinaire. Vous savez, je dis souvent la même chose, c'est-à-dire que les musées, pardon d'être familier, voire vulgaire, ils meurent, ils crèvent d'absence de visiteurs.
C'est vulgaire, ça.
Oui, c'est vulgaire. Donc il y a plein de musées dans le monde qui ne sont pas visités, qui sont vides.
Ouais.
Voilà. Et ça veut dire que leur mission, elle est en quelque sorte, elle échoue. Voilà, c'est une chance pour le Louvre, de grâce à la Joconde, d'attirer ses visiteurs du monde entier.
Alors, quelques recommandations, là. On a 1:30 devant nous. On peut visiter le Louvre dans de bonnes conditions cet été. Vous nous recommandez quoi ?
Je vous recommande d'abord de réserver plutôt l'après-midi, parce que généralement le matin, il y a un peu plus de monde. Je vous recommande de terminer peut-être par la Joconde, comme ça peut-être vous serez le dernier visiteur à être tout seul dans la salle de la Joconde.
Oh, donc voilà. Ça me donne des frissons, voilà. Là.
Et puis, je vous invite aussi à aller dans l'aile Richelieu, qui est moins visitée. Il y a des magnifiques cours de sculpture. Il y a par exemple ce palais qui vient de Khorsabad, en Irak, donc, voilà, qui est des civilisations assyriennes. On est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a les appartements de Napoléon III. Voilà. Le Louvre, c'est aussi la traversée des siècles, les grandes cultures du monde.
Et est-ce que vous devez, comme président-directeur, d'aller les voir, de faire votre balade, de répartir les regards? Ça peut peut-être paraître un peu
non, bête, mais d'abord parce que c'est un plaisir d'être dans ces salles aussi, hein, et de voir et de revoir ces œuvres. Quand on est un des plaisirs de la visite du musée, c'est de retrouver des amis, c'est-à-dire d'en faire votre finalement, votre imaginaire, votre vie. Enfin, vous savez, peut-être qu'on est un peu névrotique dans les musées, mais ce sont aussi notre monde, voilà. Et moi, mon monde, il est peuplé d'œuvres d'art du passé et du présent.
Elle est belle, votre vie, Jean-Luc Martinez. On revient avec cette notion d'accès à la culture qui est très importante. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes en train de visiter le Louvre dans des conditions exceptionnelles parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de voir les autres quand on visite un musée. On n'a pas envie d'avoir des têtes devant le tableau qu'on est en train de regarder. D'une certaine façon, Jean-Luc Martinez, le Louvre est victime de son succès habituellement.
Je ne suis pas d'accord avec vous, alors pas du tout. Parce que je pense que le musée, c'est aussi un lieu de rencontre avec les gens. C'est le lieu aussi où on peut se parler. Donc vous voyez, par rapport à, je ne sais pas, à une visite virtuelle, voilà, c'est le lieu où vous pouvez, par exemple, où des grands-parents amènent leurs petits-enfants. C'est le lieu, un des rares lieux où les générations se rencontrent, où on peut aller en amis. Parce que, voilà, de la même manière que quand vous allez au cinéma, le plaisir, c'est de discuter du film avec vos amis. Donc voilà, c'est aussi ça, le cinéma. C'est possible de ne pas discuter pendant le film. Le musée, c'est un lieu aussi de partage, où on discute, où on échange. C'est le lieu aussi où on vient construire son imaginaire. Voilà, bon.
Donc, moi, oui, mais le fameux tête-à-tête avec le tableau ou la sculpture,
oui, mais le musée n'est
plus ça.
Le musée n'est pas une collection privée uniquement réservée à la délectation de certains. Voilà, non, c'est aussi un lieu. Par exemple, le Louvre, le plaisir du Louvre, c'est aussi de regarder la diversité du monde qui nous entoure. Voilà, vous, avant cette crise sanitaire, vous aviez des dizaines de nationalités différentes. C'est aussi le plaisir de fréquenter un musée comme le Louvre. Et moi, par exemple, je pense et j'essaie de faire en sorte que mes équipes, elles pensent les expositions avec le public. Le public n'est pas une gêne. Au contraire, il fait partie de l'équation. C'est un triangle d'or, c'est un bâtiment, une collection, mais aussi le public. Voilà, et le Louvre, c'est cette chance-là d'accueillir cette diversité-là.
Êtes-vous inquiet pour l'avenir du Louvre par rapport à cette crise sanitaire ? Bon, fatalement, comme lors des gros événements, des gros drames, la fréquentation va baisser et puis reviendra progressivement, mais celle-là par rapport aux autres ?
Il est évident que nous avons 75% de visiteurs étrangers, beaucoup d'extra-européens, des Américains, Chinois, Brésiliens. Bon, à l'évidence, ce public ne sera pas là cet été. Pour autant, vous voyez, c'est un palais qui a 8 siècles, c'est un musée qui a plus de 2 siècles. Bon, là, c'est une maison solide. Je rappelle aussi que les musées ne sont pas à but lucratif. C'est d'abord un investissement en termes d'éducation, de culture. Voilà, donc... l'État, je pense, nous accompagnera dans cette période. Mais
Vous dites « je pense »,
nous savons que l'État nous accompagnera. Donc, avec l'idée aussi que dans 2 ou 3 ans, nous retrouverons cette fréquentation, parce qu'il y a aussi l'attractivité des Olympiques qui s'annonce pour 2024. Et Paris reste une capitale incroyable avec un patrimoine étonnant. Donc, moi, je suis assez serein, même si, bien entendu, pendant 3-4 ans, la situation financière sera moins confortable qu'elle ne l'a été. Et pour autant, je répète, c'est un musée solide, le musée du Louvre.
Je voulais dire un mot, et peut-être même un peu davantage, des guides conférenciers qui ont profité hier de la réouverture du monde pour attirer l'attention sur leurs conditions. Il y a eu un petit flash mob pour dire qu'ils sont en difficulté. Ce sont des gens indépendants qui réclament la prolongation de leurs droits comme les intermittents. Vous les soutenez ?
C'est une profession difficile, en effet. Hein, donc, et nous avons fait ce qui est de notre responsabilité. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de collègues, on en a beaucoup parlé à l'étranger, qui se sont posé la question de est-ce qu'il fallait interdire les groupes, etc. Moi, j'ai œuvré pour que, au contraire, dans les musées nationaux et au Louvre en particulier, les groupes continuent d'être accueillis avec les guides conférenciers jusqu'à 25 personnes.
C'est gratuit donc, d'ailleurs.
Voilà.
Hein,
donc, oui. C'est gratuit pour les groupes scolaires. Et voilà. Et voilà, donc pour leur permettre de revenir travailler. Bon, leur difficulté, c'est que les touristes étrangers et notamment extra-européens ne sont pas là. Donc, en effet, c'est un moment difficile, je pense, pour eux. Mais nous avons fait en sorte qu'ils puissent revenir travailler au Louvre dans de bonnes conditions.
Est-ce qu'il y a eu vraiment des perdants auxquels on ne pense pas, de cette crise sanitaire qui a aussi donc frappé le Louvre?
Je pense que la difficulté pour beaucoup de gens, c'est de retrouver le chemin du musée. Donc la difficulté, elle est en termes de mobilité aussi. Cette crise sociale, économique que les pays du monde vont connaître va faire qu'une certaine catégorie sociale qui accédait au musée, qui était en train d'accéder au musée, peut-être aura plus de mal.
Ça,
cette crise sociale,
peut être une répercussion.
Oui, bien sûr, il ne faut pas la négliger. Donc ça veut dire que notre travail consiste toujours à aller chercher le public. Mm. Parce qu'en effet, il n'y a pas d'évidence à aller au musée. Je vous rappelle que 60% des Français ne vont pas au musée, et donc ça signifie qu'on doit toujours aller faire un pas pour les faire venir au musée.
Bah finalement, on va parler de l'art, mais dans un instant, sur Europe 1.
9h, 11h, Culture Média, Pascal Clark.
J'espère que vous appréciez cette sorte de visite particulière que nous accorde le président directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez. Ça va encore, on a encore un peu de temps avant de vous relâcher. Ouais, je ne voudrais pas faire attendre Roselyne Bachelot quand même qui va visiter le Louvre avec vous en fin de matinée. Est-ce que l'art peut sublimer, voire sauver des vies, pensez-vous? Est-ce qu'on en est là?
En tout cas, je peux parler que de mon expérience.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'on puisse partager, c'est ce qu'on a vécu. Pour moi, la rencontre avec les œuvres d'art a transformé ma vie d'enfant, d'adolescent. Je me suis construit et j'ai accédé aussi par la littérature, par le cinéma. Voilà.
Mais donc, c'est-à-dire, par exemple, votre premier contact avec un musée, vous avez quel âge?
J'étais en 6e, j'ai été amené à l'école, au Louvre. Voilà. Donc mon premier musée, c'est le Louvre. La première œuvre d'art que j'ai vue, c'est la Victoire de Samothrace. Voilà. Et moi, ça a transformé ma vie. J'ai accédé aux choses qui n'étaient pas celles de mon milieu social. Voilà.
Mais donc, vous avez eu un déclic sur le moment ou après, vous avez su combien ça avait été fondateur?
C'est plutôt après qu'on se mesure voilà, combien ça a été fondateur. Mais aussi la littérature. La littérature, ce sont des mondes, quoi. Être dans la pensée des autres, voilà. Donc enrichir soi-même, ça. Oui, le moment de bonheur parfait où vous vous dites « ça, je l'ai pensé, mais j'étais incapable de le formuler ». Et ça, voilà, quand vous avez rencontré ça chez Flaubert, par exemple, ou chez Tchekhov, bon, vous dites, voilà, c'est atteindre une forme d'universalité. Donc, voilà, quand vous avez expérimenté ça, vous dites, mais pourquoi les gens ne vont pas au musée? Pourquoi les gens ne lisent pas?
Oui, alors lire, bon, c'est une chose, on peut lire toute littérature, hein, tout genre, et puis effectivement s'y reconnaître, mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté supplémentaire aux œuvres d'art, ou même psychologique simplement, d'aller au musée?
Vous avez raison, il y a cette barrière-là, hein, donc qui est une barrière. Les musées sont un peu intimidants. Les gens se disent, c'est pas fait pour moi. Ils ont raison parce qu'à l'origine, les musées n'étaient pas faits pour eux.
C'était fait pour qui?
C'était fait pour les artistes. Hein. Au XVIIIe siècle, les musées sont créés en Europe, d'abord pour la formation des artistes. Le public et le grand public, ça ne vient que tardivement, finalement. Hein. Donc, par exemple, c'est l'exposition universelle de 1855 à Paris qui fait qu'on ouvre le Louvre en grand. Avant, c'est très très peu ouvert. Voilà. Donc du genre, les gens sentent ça, qu'ils ne sont pas vraiment à leur place. Donc du coup, la révolution que nous devons toujours faire, c'est rendre un musée plus accueillant, quoi, aller les chercher. Par exemple, donc, cet été, au Louvre, il y a des visites découvertes, gratuites, sans réservation, donc à 8 points du musée. Donc voilà, le visiteur qui sera là, eh ben, un guide conférencier prendra la parole pour lui expliquer les diamants de la couronne, mais aussi le scribe accroupi et les antiquités égyptiennes au Louvre. Il y a des mini-découvertes, parce que le visiteur, non seulement il ne se sent pas à l'aise dans un cadre comme cela, mais aussi il se dit « mais j'ai pas toute la culture ». Mais on n'a pas besoin de... Vous savez, personne n'a toute la culture. Moi, je n'ai pas toute la culture pour connaître toutes les œuvres du musée du Louvre.
Oui, mais il faut certains outils quand même pour comprendre, non?
Il faut avoir de la liberté. Et cette liberté-là, c'est se dire je peux aimer, ne pas aimer, mais pas de manière absurde. Voilà. Mais bon, voilà, en se construisant une relation particulière avec l'œuvre d'art. Et ça, nous pouvons le faire dans le musée. C'est un lieu aussi, il y a par exemple cet été une petite exposition donc, qui s'appelle Figures d'artistes, hein, où on a rassemblé le plus beau du Louvre, enfin le meilleur du Louvre, avec par exemple la magnifique collection d'autoportraits du Louvre. Vous allez voir Poussin, Rembrandt, Madame Vigier-Lebrun, et là on donne les clés de compréhension pour justement prolonger sa visite.
Jean-Luc Martinez, le Louvre virtuel, la fréquentation du Louvre virtuel a explosé pendant le confinement. C'est bien, mais c'est pas la même chose que d'être face à une œuvre. On est d'accord, qu'est-ce qui se passe quand on est face à un tableau qui...
D'abord, on est un corps face à une œuvre qui a été faite par quelqu'un d'autre qui vous ressemble, et vous avez de la matière. Voilà. Donc la différence, elle est là. C'est d'abord la matérialité. Les gens sont surpris par les dimensions, par la forme du cadre, par la sculpture. Par exemple, il faut tourner autour d'une sculpture. Donc on apprend à regarder une sculpture en tournant, en essayant de la regarder sur tous les angles. Voilà. Ce rapport-là, il reste unique. C'est ce moment-là de la rencontre entre vous qui êtes un corps et la matérialité de cette œuvre. Et donc, au-delà de la matérialité, d'imaginer aussi le geste de l'artiste. Mais comment il a fait ça, comment, voilà. Donc ça reste unique. Il n'empêche que la visite virtuelle, c'est aussi un plus, hein. Donc voilà, ça donne envie. Vous voyez, on a diffusé pendant le confinement un petit film sur la salle des cariatides, qui est la salle de bal du Palais de la Renaissance. Ça a été vu par 1 500 000 personnes partout dans le monde. Voilà, parce que sans connaissance, etc., c'est tout simplement beau. Voilà, c'est très, très beau de voir ces sculptures dans cet espace. Voilà. Parce que le musée, c'est ça. Cette alchimie entre un lieu et des œuvres.
À l'inverse, il y a des gens qui ne ressentent rien. C'est une.
C'est possible, mais vous comme moi, il y a des œuvres qui nous laissent indifférents. Ouais. Donc voilà.
Il nous reste 1 minute 30 pour récapituler tout ça, Jean-Luc Martinez, dire que voilà, il faut réserver pour visiter cet été. Oui. Il y a encore de la place.
Tout à fait, beaucoup de place.
Il y a même beaucoup de place, oui, et que c'est le moment.
C'est le moment.
Qu'il faut arriver avec son masque.
Oui.
Quoi d'autre ? Il n'y a pas de vestiaire ?
Non, il n'y a pas de vestiaire, donc il ne faut pas venir avec des grands sacs, ni de valises, voilà, ni de casque de moto, parce que donc, pour des raisons aussi des protocoles de sécurité, pas on a fermé le vestiaire.
Ouais, pas de restauration ?
Si, il y a des restaurants qui sont ouverts, des cafés. Donc,
des pipi rooms ?
Oui, bien sûr.
Non, voilà. Non, mais c'est important.
Oui, non, mais vous avez raison. Donc voilà, je répète, on est un corps, hein, donc on n'est pas simplement un esprit. Donc voilà, donc ce sont des conditions, je pense, favorables pour redécouvrir le musée.
Mm. Et votre inquiétude est passée.
Oui.
Bah, très bien. Merci beaucoup d'être venu quasiment nous offrir une visite privée du Louvre. Et je rappelle que vous êtes attendu par la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. C'est un hommage pour vous, j'imagine.
Oui, c'est aussi pour...
C'est une tannée, on ne sait pas.
Non, c'est vraiment aussi pour tous les personnels du musée et tout. Donc voilà, on est très contents d'accueillir la nouvelle ministre.
Merci beaucoup, Jean-Luc Martinez. Passez un bel été.